Bonjour à tous. Salut. Ouais, je crois que je peux dire salut à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là ce matin. Je vais commencer différemment parce que c'était vraiment un beau moment qu'on a passé là. Est-ce que vous avez conscience que Dieu est réellement avec nous ce matin? Je trouve fort le temps qu'on a vécu et en fait j'ai réalisé que encore trop souvent à l'église, je suis là sans vraiment prendre conscience de la présence de Dieu. Puis j'avais juste à cœur de dire pour ce matin que ce qu'on vit là, c'est réel. C'est vraiment le mot que j'avais pour aujourd'hui, c'est que ce qu'on vit là, c'est réel. Et puis, je vous encourage vraiment d'être ici avec ce cœur-là. Je voulais aussi vous remercier, parce que la majorité d'entre vous, vous avez reçu un petit questionnaire la semaine passée d'environ 10 questions. C'était une manière de vous préparer en amont avant d'entendre ce message, mais c'était aussi... pour moi, un moyen d'avoir votre vision personnelle sur les relations. Je vous avoue que c'est très frustrant parce que je ne vais pas pouvoir tout reprendre aujourd'hui. Sinon, on serait encore là ce soir et puis on ferait une pyjama partie. Alors, si vous êtes partant, ça me va. Mais vos réponses sont vraiment très intéressantes. Et puis, je vous remercie vraiment de votre sincérité. Donc, je confirme, hein, c'était bien anonyme. Donc, je ne sais pas qui a écrit quoi. Mais vos réponses m'ont énormément touchée, surtout quand c'était des questions ouvertes où vous avez pu aussi vous exprimer. Je suis juste frustrée de ne pas pouvoir tout reprendre aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je vais juste aussi commencer par prier. Papa, je suis tellement reconnaissante envers toi. Sincèrement, merci pour ta présence réelle parmi nous ce matin. Prends toute la place dans la salle, prends toute la place dans mes paroles, prends toute la place dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit habite en nous maintenant et pour toujours. Merci Seigneur pour chaque personne présente ici. Merci pour qui elles sont, merci pour leur cœur. Merci parce que tu vois chaque personne présente ici dans cette salle. Tu les vois et tu les aimes. Je te prie que tu puisses préparer nos cœurs et nous rendre tellement sensibles à ta présence ce matin, à ton amour ce matin. Seigneur, que tu puisses enlever tout ce qui pourrait nous éloigner de toi et touche-nous de la manière que tu le souhaites ce matin. Amen. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie de vous rapprocher de Dieu et de vous donner envie de vous encourager et de vous aimer les uns les autres. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse vivre les choses de manière réelle, avec une profondeur de cœur et d'esprit. Comme vous l'aurez compris, je vais parler des relations, puis c'est tellement difficile parce que j'aurais envie de parler de tellement de choses. Les relations sont l'essence même de tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est surtout l'essence de Dieu, du cœur de Dieu. Et j'ai vraiment dû me positionner sur ce que Dieu il avait envie de nous apporter ce matin. Et... voilà, c'est ce qui fait que mon message est ce qu'il est. Mais j'aurais eu plein d'autres choses que j'aurais voulu vous dire. Dans Luc 10, 25 à 30, il y a un professeur de la loi qui dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit qu'il a bien répondu et puis que s'il fait ça, il vivra. Mais il lui demande pour se justifier, « Et qui est mon prochain ?» Et là, Jésus, il illustre sa réponse par une parabole, une histoire. Ce que j'aime dans les paraboles, c'est que Dieu, il nous plonge dans une situation concrète, une situation à laquelle on peut tous s'identifier pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, la réponse de Jésus dans ces histoires, elle est tellement complète. Donc pour répondre à sa question « Et qui est mon prochain ?», Jésus y raconte cette histoire. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho Et là, il tombe entre les mains de brigands, qui le dépouillent, lui donnent des coups, et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard a pris le même chemin, le voit et il continue son chemin à distance. Enfin, il passe son chemin à distance. Ensuite, un lévite arrive à cet endroit, il le voit et continue son chemin. Mais après, il y a un samaritain qui voyageait, il arrive près de lui et tout d'un coup, il est rempli de compassion. Lorsqu'il le voit, alors il s'approche de lui, il bande ses plaies en versant de l'huile et du vin, et il le met sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et il prend soin de lui. Le lendemain, quand le Samaritain doit partir, il sort 2 pièces d'argent, les donne à l'aubergiste et là il lui dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Après avoir raconté cette histoire, Jésus demande « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était au milieu, tombé au milieu des brigands ?» Et là, il répond « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. » Et après, Jésus lui dit « Va agir de la même manière, toi aussi. » C'est une histoire qui est bien connue, mais je vais me baser sur cette histoire pour prendre plusieurs points. Cette histoire, elle est tellement parlante. Déjà, comment on peut parler de relation sans parler d'amour? Le premier point, c'est que nous sommes appelés à aimer Dieu en premier. Aimer Dieu pour aimer les autres. Les pharisiens, donc les religieux, ils avaient dénombré plus de 600 commandements à respecter. Puis ils cherchaient souvent à les classer par ordre d'importance. Dans Matthieu 22, 36 à 40, un pharisien demande à Jésus « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Parfois, j'ai l'impression qu'on a un peu de peine à accepter une réponse simple. Mais cette vérité paraît peut-être simple, mais elle est vraiment réelle. Comment pourrait-on aimer notre prochain sans aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées? C'est le premier commandement et la première partie de ces versets. Humainement, c'est impossible d'aimer Dieu, d'aimer comme Dieu nous le demande. Aucun de nous est capable de réellement aimer avec nos propres forces. Dieu, il nous appelle à une dimension où on est totalement dépendant de lui et de son amour. Mais ça commence par le fait qu'on doit l'aimer en premier et de tout notre cœur. Il faut s'efforcer à aimer Dieu pour aimer les autres. Quand il dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, ça veut dire que quand on aime, le reste suit, parce que l'amour véritable cherche le bien. Dans le questionnaire, je vous ai demandé si votre proximité avec Dieu, elle influençait vos relations. J'ai eu environ une 60aine de réponses, et puis le 86% des personnes ont répondu que ça influençait majoritairement, donc entre 6 et 10, leurs relations. Et 14% ont répondu que ça influençait pas ou très peu. Oui, nos relations sont influencées par notre proximité avec Dieu parce que tout découle de notre relation avec lui. Si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, alors notre cœur va être transformé. Nos priorités vont changer, notre regard sur les autres, notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur la souffrance et l'injustice, tout ça va changer. Et j'ai envie de dire que tu ne peux rien faire pour être plus aimé par Dieu. Par contre, tu peux faire quelque chose pour aimer plus. Ça, c'est notre responsabilité. Tu ne peux rien faire pour être plus aimé par Dieu. Par contre, tu peux faire quelque chose pour aimer plus. Mon deuxième point, c'est que notre amour doit aimer tout le monde. Ça veut dire que notre amour ne doit exclure personne. C'est différent. Notre amour doit aimer tout le monde, donc n'exclure personne. Ça paraît simple. On pourrait facilement se dire qu'on aime tout le monde, globalement tout le monde, mais on doit exclure personne. cet homme qui était à moitié mort au bord de la route, c'était un juif. Le prêtre et le lévite, donc les deux premiers passants, qui étaient des religieux, ils n'avaient rien contre les juifs. Et ils n'avaient donc aucune raison de ne pas s'arrêter. Apparemment, ils auraient passé leur chemin pour ne pas toucher du sang, parce qu'avant, c'était considéré comme impur. Par contre, les Samaritains, eux, ils n'étaient pas aimés des Juifs. Ils ne s'entendaient pas entre eux. Donc le Samaritain, lui, a aidé quelqu'un qui ne l'aimait pas de base. Il n'avait aucune raison de l'aider, contrairement aux deux autres. Ce qui rend cette parabole, du coup, d'autant plus parlante. Dieu nous montre que notre prochain, c'est tout le monde et qu'il faut exclure personne. Et il y a tellement de raisons de limiter notre amour. En fait, on a tendance à limiter notre amour à cause de nos différences. On a souvent tendance à oublier que nous sommes différents. Ce qui m'a frappée ces derniers temps, c'est que, en fait, on a bien souvent tendance à penser ce que nous pensons est juste. Que ce que je pense, c'est juste. Vous savez, comme quand vous êtes petit et vous allez dormir chez un ami, puis en fait, vous découvrez qu'une famille peut être différente de la vôtre. Elle a d'autres habitudes, mais du coup, vous vous dites que cette autre famille, elle a tort ou bien elle est bizarre. Mais eux, ils pensent exactement la même chose, mais de vous. On a tendance à oublier que nous sommes différents et que ce que nous faisons et pensons, faire juste, c'est juste, mais selon nous. C'est pour ça qu'on a tellement besoin du regard de Dieu. Dans cette parabole, il englobait tous ceux que vous considérez comme des Samaritains. Toutes les personnes différentes de vous, différentes de moi, avec des convictions, des habitudes et des avis différents. Alors puisons plutôt la force de nos différences, parce que ça nous apporte du bon. Dans Proverbe 27, 17, il est dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Le fait qu'on soit différent, ça nous rend meilleurs. Nos différences nous édifient. Mais pour ça, il faut laisser Dieu changer notre regard sur les relations et sur les différences entre nous. Et non le monde. Ted W. Engstrom, il y aura plusieurs fois des fois où je devrais m'y reprendre, mais a dit « Dieu n'exige pas de moi que j'accomplisse de grandes choses, mais que je m'efforce d'avoir d'excellentes relations. » Dieu n'exige pas de moi que j'accomplisse de grandes choses, mais que je m'efforce d'avoir d'excellentes relations. Dans Éphésiens 4, il parle de l'unité dans l'Église. Il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Ça fait beaucoup de « un ». Au lieu de nous concentrer sur nos différences et ce qui nous sépare, nous devrions nous concentrer sur ce qui nous unit. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu pour des milliards de personnes. L'unité, ça vient de « eis » qui signifie « un seul ». On est appelé à conserver l'unité parce qu'on a un seul Dieu. Et malgré toutes les raisons qui pourraient nous pousser à nous diviser, on a un même but et on doit s'efforcer de conserver cette unité par le lien de la paix. La deuxième barrière, mis à part nos différences, qui peut limiter notre amour envers les autres, c'est à cause de nos peurs. Pour ce Samaritain, c'était risqué d'aider cet homme à moitié mort. Ce n'était pas forcément comme maintenant où on pouvait appeler l'ambulance et puis quelqu'un débarquait. Parce qu'en ce temps-là, tout le monde savait que la route qui menait de Jéricho à Jérusalem était escarpée. En fait, elle faisait entre 25 et 27 kilomètres, puis elle descendait de plus de 1000 mètres. Elle était déserte et puis surtout, il y avait plein de voleurs. Et apparemment, c'était courant qu'un brigand se couche au bord de la route et fasse semblant d'être blessé pendant que les autres se cachaient et attendaient le moment propice pour cambrioler les personnes qui se seraient arrêtées. Tous ceux qui se seraient arrêtés un moment couraient le risque de tomber dans un piège. Donc le Samaritain, qui avait déjà sûrement d'autres choses à faire, je pense qu'il prenait cette route pour une raison, il était presque l'ennemi de l'homme qui était allongé à moitié mort au bord de la route, a choisi de courir le risque de tomber dans un piège pour l'aider. Pour moi, ça image le fait que l'amour, c'est risqué, et l'amour, ça peut faire peur. Dans les questionnaires, quand j'ai posé la question de ce qui pouvait vous retenir d'être authentique dans les relations, la majorité des réponses étaient basées sur la peur. La peur du rejet, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être accepté, la peur de blesser ou d'être blessé, la peur de la réaction de l'autre, la peur d'être trop négatif, la peur, la peur, la peur, la peur. Aimer, c'est risqué. Ça peut faire peur pour plein de raisons. Ça peut blesser parce qu'on est humain et imparfait. Mais est-ce que toutes ces raisons ne nous feraient pas parfois passer à côté du plan de Dieu pour nos relations? Dans 1 Jean 4, au verset 18, il est dit « Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. » Et au-delà du fait que ce verset est clair, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il est écrit « Quand on aime ». Et il n'est pas écrit « Quand on est aimé ». Puis c'est fou parce que j'ai comme réalisé que je pensais que notre besoin principal, c'était d'être aimé. Mais si notre besoin principal n'était pas en fait d'aimer, on a l'impression que notre besoin principal, c'est d'être aimé. Mais si notre besoin principal était en fait d'aimer, et rappelons-nous qu'il n'y a vraiment qu'une seule et unique relation sur laquelle on pourra toujours compter, c'est celle avec Jésus. Mon troisième point, c'est que aimer, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est une attitude. Jésus ne répond pas seulement à la question de « qui est mon prochain » dans cette histoire, mais il nous montre aussi comment nous conduire et comment aimer. Aimer, ce n'est pas seulement se dire qu'il y a personne qu'on déteste ou qu'on aime tout le monde, mais en fait, c'est être prêt à venir en aide à n'importe qui, même les personnes avec qui on n'a pas beaucoup d'affinités. Ça demande quand même pas mal d'engagement. Quand on se dit que aimer, c'est pas seulement une émotion, mais il s'agit aussi d'actes et de services. Si on se met dans la situation, j'aurais très bien pu passer devant cet homme à moitié mort et l'aimer. Mais est-ce qu'on n'agit pas comme ça parfois? On aime les gens de loin. Sûrement que cette situation, cet homme qui était à moitié mort, ça n'a pas dû laisser indifférent le prêtre et le lévite quand ils sont passés à côté. À ce moment, quand ils l'ont vu, ils ont dû l'aimer. Ils ont peut-être même demandé à Dieu de le bénir. Ils ne l'ont peut-être pas aidé parce qu'il était plein de sang et que c'était considéré comme impur. Mais le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le deuxième, qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. Ça passe avant. Le véritable amour ne peut pas rester sans effet en nous. Il y a un moment déterminant dans cette histoire. En fait, c'est ce qui a changé entre les deux premiers passants et le Samaritain. Les trois aimaient, je pense que les trois aimaient cet homme. Mais à un moment donné, le Samaritain, il a été épris de compassion. Mais après, il y a un Samaritain qui voyageait et arrive près de lui. Et tout d'un coup, il est rempli de compassion lorsqu'il le voit. Alors, il s'approche de lui, il bande ses plaies en versant de l'huile et du vin et il le met sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et il prend soin de lui. Tout d'un coup, c'est comme si quelque chose s'était passé physiquement en lui. Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas, ne pas agir après ce qu'il vient de ressentir. C'est obligé qu'il y ait une suite à ça. Le mot compassion, c'est là qu'il faut que, voilà. Le mot compassion vient de, je crois que CH, ça se prononce que, je ne suis pas sûre, splagnizomai, qui vient lui-même de splagnon, voilà, désolée, qui signifie, en fait, ça signifie les entrailles, étant considéré comme le siège des plus violentes passions, telles que la colère, l'amour, mais par les Hébreux, des plus tendres affections, en particulier bonté, bienveillance, compassion, de l'anneau de cœur ou un cœur dans lequel réside la miséricorde. Ce qui s'est passé, là, ce qu'il a ressenti ce Samaritain, c'est que tout d'un coup, il a été saisi, il a senti que quelque chose bougeait au niveau de ses entrailles, il a senti quelque chose physiquement qui se passait, puis il s'est dit « mais je ne peux pas rien faire ». Ça se passe au niveau des entrailles. Vous savez le genre de sentiment que vous êtes obligé d'écouter. Sinon, après, vous vous sentez trop mal de ne pas l'avoir fait. L'amour, c'est un sentiment, mais qui pousse à prendre soin, mais qui pousse à porter du fruit. Sinon, on reste dans l'affection. Humainement, c'est impossible d'aimer tout le monde en tout temps. Mais par contre, en aimant Dieu, Dieu va nous donner un amour nouveau, un amour divin qui dépasse tout. Une autre chose, c'est que l'amour, c'est un choix, quand même. Même si on ne ressent pas forcément tout cet amour ou cette compassion au niveau des entrailles, on pourra toujours choisir d'aimer au travers de notre attitude. On pourra toujours choisir d'aimer au travers de notre attitude. Une manière d'aimer par son attitude, c'est par exemple d'encourager. Il est tellement mentionné dans la Bible de s'encourager les uns les autres. Je vous ai posé une question dans le questionnaire. Je vous ai demandé, quand vous avez l'idée d'encourager quelqu'un, combien de fois vous allez le mettre en pratique ? Vous êtes bon, franchement. Meilleur que moi, je pense. Sur 60, il y en a 3 qui le mettent en pratique tout le temps. 40 qu'ils le mettent en pratique entre 7 et 9 fois sur 10. Puis après, le reste, j'ai pas regardé. Mais il y en a quand même 3 qu'ils le mettent en pratique environ tout le temps et 40 qu'ils le mettent en pratique entre 7 et 9 fois sur 10, ce qui est pas mal, hein. Mais il y a quand même, c'est 1, 2, 3 fois qu'on ne fait pas. Puis c'est ça que j'avais envie de reprendre. Parce que pour ma part, j'ai souvent des idées, des impulsions pour encourager les autres. Et j'ai réalisé qu'en fait, je crois que c'est Dieu qui me donne ces impulsions pour les autres. Mais le chemin jusqu'à le mettre en pratique, eh ben c'est à ce moment-là que l'ennemi y vient. Et pour diverses raisons, il me convainc de ne pas le faire. Ça peut être la peur de mal l'exprimer par manque d'énergie, justement la peur de la réaction, la flemme. Enfin, ça peut être tellement de raisons. Mais j'ai remarqué qu'en fait, j'ai l'impulsion. Mais une fois qu'on a l'impulsion, le temps qu'on le mette en pratique, eh ben là, l'ennemi, il veut pas. Il veut pas qu'on s'encourage les uns les autres. Il veut pas qu'on... Alors soyons à l'écoute et soyons réactifs par rapport à nos idées d'encourager, d'aider et d'édifier les autres. Parce que c'est justement quand on a ces impulsions que Dieu, il veut nous utiliser. Mais ça, l'ennemi, il l'a bien compris, vraiment. Une autre chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que le Samaritain, il n'a pas aidé et aimé pour avoir quelque chose en retour. La Bible nous dit que cet homme était à moitié mort. Il le prend sur son cheval et puis il s'occupe de lui à l'auberge. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, le gars qui était à moitié mort, il était frais et il prenait l'apéro avec eux en le remerciant de tout ce qu'il avait fait. Le Samaritain part le lendemain, c'est marqué. J'imagine qu'il part peut-être même avant que le juif se réveille. Puis il donne encore de l'argent à l'aubergiste pour qu'il s'occupe bien de lui. À aucun moment il a agi comme ça pour avoir de la reconnaissance ou pour être vu. En regardant son ennemi pour lui montrer qu'il l'avait sauvé et puis qu'il lui devait quelque chose en retour. Alors mon quatrième point, c'est aimer comme si on le faisait pour Dieu. C'est tellement important les relations, si important que le piège, c'est de leur donner un peu trop d'importance. Dans Galates 1 à 10, il est dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Je pense qu'une des clés, c'est de le faire pour Dieu. Puis une autre clé, c'est aussi dans le verset Luc 6, 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Je pense que si on avait plus ça en tête, en tout cas je parle pour moi, je pense que j'agirais différemment et j'aimerais différemment. Donc mon premier point, c'était aimer Dieu pour aimer les autres. Mon deuxième, notre amour doit aimer tout le monde, donc n'exclure personne. Ensuite, aimer, ce n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude. Et puis, aimer comme si on le faisait pour Dieu et non pour les hommes. Mais pourquoi les relations sont si compliquées ? Ça devrait être si simple. Du coup, j'ai choisi de faire un point réalité. Parce que je pense que ce n'est pas toujours facile et puis je trouvais aussi important d'en parler. Pour être authentique, j'aurais pas du tout voulu vous parler de cette parabole ce matin. Je sentais comme une résistance, vraiment. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais ça serait vraiment bien de l'apprendre. Puis après, j'étais là, non, mais j'ai vraiment pas envie de l'apprendre. Et j'ai prié, puis j'ai réalisé qu'en fait, ça m'avait culpabilisée de ne pas en faire assez pour les autres. J'étais là, mais comment je peux apporter cette parabole alors que j'ai le sentiment de ne pas en faire assez ? En fait, je me sens tellement impuissante face à toute la souffrance, impuissante face à la douleur physique et mentale, impuissante face aux difficultés familiales et de couple, et sans énergie face à tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, on a un Dieu puissant et qui peut tout. Ce poids, il ne doit pas reposer sur nos épaules, mais on doit remettre tout ça entre les mains de Dieu. On se sent impuissant que lorsqu'on essaye sans Dieu. Mais dès le moment où on lui laisse la place d'agir et on lui laisse ça entre les mains, on se sent plus impuissant face aux circonstances, mais on se sent impuissant face à la puissance de Dieu. Quand on remet ça entre les mains de Dieu, on se sent plus impuissant face aux circonstances, mais on se sent impuissant face à la puissance de Dieu. Et cette culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. Et j'ai juste envie de dire, relâchons cette pression de devoir faire, de devoir aider, de devoir prier, de devoir s'encourager. J'ai réalisé que ça faisait de plus en plus partie de mon vocabulaire. Je dois prier, je dois encourager, je dois faire ça. Mais redemandons plutôt à Dieu de nous donner de la passion et de la compassion pour les autres. D'avoir un tel amour pour Dieu et pour les autres que les relations deviennent naturelles et authentiques. Je suis persuadée que Dieu, il va nous donner l'envie et les ressources nécessaires pour prendre soin de certaines personnes en particulier au moment voulu. Mais on ne peut pas être partout. Je te rassure, tu ne peux pas être partout. Et c'est ça qui est beau dans le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Dieu, il n'est pas limité au niveau de ses ressources et il va nous envoyer vers certaines personnes en priorité. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir aidé ou d'avoir encouragé le plus de monde, Mais je pense que l'essentiel, c'est bien d'avoir une relation intime avec Dieu pour pouvoir écouter les personnes et les moments qu'il nous met à cœur. Sinon, on va se vider complètement. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu pour pouvoir écouter les personnes et les moments qu'il nous met à cœur. Et on doit être prêt à changer nos plans parfois, comme ce Samaritain qui n'avait pas prévu de s'arrêter pour aider cet homme à moitié mort. Dans le questionnaire, le quart des personnes environ a dit se sentir majoritairement frustrée de ne pas prendre assez soin des autres. Moi, je dois avoir répondu sur 10 à 8 ou 9, je pense. Je me sens tellement frustrée de ne pas prendre assez soin des autres parce que je me sens pas capable, parce que je me dévalorise par manque de temps ou d'énergie. Mais Jésus, il a fait des miracles, il a encouragé des foules, il a changé tellement, tellement de vies. Mais ça ne change pas le fait qu'il n'était pas à plusieurs endroits à la fois. Et il ne s'est pas arrêté pour chacune des personnes dans la foule qui le suivaient. Mais il s'est arrêté au bon moment avec les bonnes personnes, tout en se retirant pour cultiver sa relation avec Dieu. Il n'était pas à plusieurs endroits à la fois. Il ne s'est pas arrêté pour chacune des personnes, mais il s'est arrêté pour les bonnes personnes au bon moment. Et il a toujours cultivé sa relation avec Dieu. Et je pense que c'est ça qu'on est appelé à faire et à vivre. On ne pourra pas faire tout pour tout le monde, mais l'essentiel, c'est de rechercher la volonté et le cœur de Dieu là au milieu et de ne pas compter sur nos propres forces. J'ai bien aimé ce qu'a dit Tom Holliday dans un de ses livres. L'amour constant naît de priorités et de motivations élevées. Il ne peut s'exprimer qu'en saisissant une occasion à la fois. L'amour constant naît de priorités et de motivations élevées, mais il ne peut s'exprimer qu'en saisissant une occasion à la fois. Dans notre quotidien, prenons pas le poids de tout ce que nous devrions faire, mais chaque jour, soyons à l'écoute de Dieu pour savoir comment Dieu veut nous utiliser aujourd'hui, dans les circonstances qu'on vit, avec les forces qu'on a. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'on est très exigeant dans nos relations. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si ça a toujours été comme ça, mais on vit dans un monde, dans une société aussi qui nous pousse sans arrêt à réclamer ce qu'on devrait avoir. Elle nous entraîne à nous venger, à nous révolter, à nous concentrer sur nos droits en tant qu'individu. Le nombre de fois où je tombe sur des vidéos où c'est « mais tu as le droit, pense à toi, tes besoins ». Alors oui, il faut qu'on pense à nous, mais parfois j'ai l'impression que l'ennemi joue avec ça. Il sait que les relations sont centrales et il se réjouit de nous voir monter les uns contre les autres, de nous attarder sur des détails parfois et sur les faux pas des autres. Et de faire ça pour que ça prenne une telle proportion que ça change notre regard sur les autres et sur nos relations. Je vais prendre un exemple tout bête qui m'est arrivé, mais qui m'a marqué et qui me marque encore maintenant. À 13 ans, je suis allée au Burkina Faso avec mon papa dans une association d'aide humanitaire et j'avais vraiment très à cœur les gens. J'avais l'impression d'avoir beaucoup d'amour et puis j'avais l'impression d'avoir peu de jugement. En ce temps-là, j'étais vraiment à fond dans mes valeurs, j'étais affermie dans ma foi. Voilà. On a eu beaucoup de contacts avec un pasteur là-bas, un pasteur qu'on appréciait énormément, très accueillant, avec un grand cœur. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours beaucoup. Il m'avait marqué. Et un jour, on partait en voiture quelque part avec lui, on s'asseye dans la voiture, puis juste avant de partir, il ouvre la portière, puis il jette un carton qui était dans la voiture hors de la voiture. Puis il referme la porte et on part. Dès ce moment-là, je n'ai plus réussi à le regarder de la même manière. Ce jour-là, j'avais remis en question le fait qu'il soit un bon chrétien. Je m'en souviens. Je ne sais pas si c'était juste parce qu'il était pasteur ou si c'était parce que c'était un individu, je ne sais pas. Mais cette vision de lui n'a pas changé pendant mon séjour là-bas. C'est ridicule, hein. En plus, par la suite, voilà, j'ai vu aussi que c'est quelque chose qui se faisait là-bas. Et puis, ce n'était pas que lui. Mais ça, ça a changé ma manière de le voir et ça a remis en question le fait qu'il soit un bon chrétien, selon moi. Et j'ai pris cet exemple parce que parfois on est tellement exigeant. Mais est-ce que Dieu le voit comme un gars qui a jeté un carton par terre ? De toute façon, nous, on verra que ce qu'on verra et puis on en fera l'interprétation qu'on en fait. Mais on ne connaîtra jamais réellement le cœur, la vie de l'autre. Mais Dieu, oui. Et Dieu, il a un regard d'amour sur tout le monde. Et j'avais juste à cœur de dire que l'Église va parfois te blesser, les personnes qui sont autour de toi vont te décevoir et ne pas toujours répondre à tes attentes. Mais ce sont seulement des personnes imparfaites qui sont en construction, en chemin. Soyons indulgents les uns envers les autres. Osons pardonner, osons comprendre, osons communiquer. Et rappelons-nous qu'une seule relation est parfaite. On est là pour nous encourager les uns les autres, mais en aucun cas pour que ça remplace notre relation avec Dieu. Ne mettons pas nos attentes d'amour sur les autres, elles ne pourront pas être satisfaites. Mais mettons nos attentes d'amour sur Dieu, puis elles seront satisfaites au-delà de ce qu'on pourrait penser. Mettons pas nos attentes sur les autres, mais mettons nos attentes sur Dieu, et en plus de ça, elles seront répondues au-delà de ce qu'on pourrait penser. J'ai envie de dire, rendons simples les relations. Si tu sens que tu as besoin d'un nouvel amour de Dieu, mais surtout d'un nouvel amour pour Dieu ce matin, alors c'est pour toi. En lisant vos réponses, Dieu m'a mis à cœur aussi de prendre un temps de prière pour ça, et puis aussi peut-être de prendre autorité par rapport à certaines choses. Si ça vous parle, je vous encourage à faire cette prière avec moi. Vous pouvez écouter ce que je dis ou prier en même temps. C'est égal. Seigneur, sois au centre de cette église, sois au centre de nos relations, de notre amour les uns envers les autres. Aide-nous à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta compassion, de ta pitié, de ton empathie pour les autres. Aide-nous, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Aide-nous à rester attachés à toi, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Aide-nous à avoir plus d'écoute les uns envers les autres. Être plein d'humilité. Aide-nous à avoir de profondes connexions entre nous, à nous pardonner, à nous respecter. Aide-nous à accepter nos différences, à retirer le bon de ça et à rester unis dans la même direction. Aide-nous à ne pas attendre quelque chose en retour, mais de le faire comme si on le faisait pour toi. Seigneur, tu vois aussi ce matin les personnes qui se sentent seules et ça te rend triste. Seigneur, tu leur donnes des amitiés profondes. Place des bonnes personnes autour d'elles. S'il y a des personnes qui devraient stopper certaines relations, de mauvaises influences, alors viens guider chaque chose et aide-les à franchir ce pas. Seigneur, je veux croire que tu vas nous guider à dégager du temps pour les bonnes relations. Seigneur, je veux aussi déclarer ce matin que l'ennemi, il a strictement aucun droit dans nos relations. Seigneur, en ton nom, on veut refuser la culpabilité. On veut refuser la peur du jugement. On veut refuser la peur du rejet. On veut refuser ce sentiment de dévalorisation ou qui dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez. On veut refuser aussi tous ces problèmes de santé qui persistent, Seigneur. Et on veut te faire confiance, Seigneur. Tu vas guérir au temps et au moment voulu. On veut refuser, Seigneur, le non-pardon. On veut refuser les blessures du passé par des non-chrétiens comme par des chrétiens. Seigneur, on veut refuser que l'ennemi atteigne nos familles et nos relations familiales. On veut refuser qu'il ait un impact dans les couples, dans les mariages. On veut refuser qu'il ait un impact sur les enfants. Seigneur, tu entoures nos familles, tu nous entoures de ta protection. Tu protèges nos relations, tu protèges nos familles, tu protèges nos couples, tu protèges nos cœurs. Seigneur, mais qu'on puisse t'aimer d'un amour ardent, mais d'un amour puissant, Seigneur, qui te recherche, qui a soif de toi. Seigneur, parce qu'on doit t'aimer en premier. Et Seigneur, si on recherche, si on te recherche, si on recherche ton royaume, eh bien, tu dis que tout le reste nous sera donné en plus. C'est pourtant simple, Seigneur, mais tu sais à quel point c'est difficile pour nous de te mettre en priorité. Et je te prie ce matin, Seigneur, de venir remplir le cœur de ton amour, de chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Qu'on puisse avoir comme une nouvelle révélation de ton amour, mais une nouvelle révélation de notre amour pour toi et de notre amour pour les autres. Seigneur, viens, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour ta fidélité, merci parce qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Oh, Seigneur, tu bénis, tu conduis. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.